Vous écoutez
RMC. RMC. Oula. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Ça y est, Maria, il a attaqué. L'ogre vêtu d'arc-en-ciel vient l'attaquer dans la Cypressa.
Ça y est, c'est parti pour Tadej Pogacar. Il est suivi par Philippe Ganna, par Mathieu Van Der Poel, de l'attaque de Pogacar. Et Mathieu Van Der Poel qui essaie de le suivre. Alors on va voir si Philippe Ganna derrière peut tenir. Van Der Poel, il suit.
Il est fort, le
néerlandais. Mathieu Van Der Poel a lancé très loin. Il ne reste que quelques mètres. Il est trop fort, Mathieu Van Der Poel. Et il semble surdominer cette arrivée. Tadej Pogacar derrière Philippe Ganna. Mais c'est Mathieu Van Der Poel, le néerlandais, qui va s'imposer. Il avait remporté Milan-San Remo en 2023. Il avait fait gagner son coéquipier Jasper Philipsen l'année dernière. Et ça y est, il vient de remporter son deuxième Milan-San Remo, sa deuxième Primavera, le néerlandais.
Face à Pogacar dans cette course qui, décidément, échappe année après année au cannibale slovène. Hein.
Eh oui, vous pouvez vous rendre compte que dans cette station de radio, il y a donc Christophe Cessieux et Jérôme Pinot. Et puis sinon, on n'entend plus grand monde.
Maria Azé au commentaire.
Bien sûr. Mais Maria n'est pas là avec nous ce matin. C'est pour vous dire que vous êtes présents le week-end, les copains. Alors, quelle course,
en ville, la France qui travaille le week-end, on est là, nous.
Quel premier monument de la saison. Hier, nous avons peut-être assisté au plus grand Milan-San Remo de l'histoire. Mathieu Van Der Poel s'est imposé donc pour la deuxième fois de sa carrière et a ajouté un septième monument à son palmarès, une bataille dantesque contre le grand favori hier. C'était tout de même Tadej Pogacar qui bute une nouvelle fois sur la Primavera. Pourtant, l'un des objectifs de la saison, cinquième en 2022, quatrième en 2023, troisième en 2024 et donc encore troisième en 2025. La musique qui fout les jetons. Et cette question, que retenez-vous, les GG avant tout ? Le triomphe de Van Der Poel ou le nouvel échec de Pogacar ? Christophe Cessieux.
Très difficilement dissociable, mais je préfère retenir quand même le nouvel échec de Poggi parce qu'il y a plus à dire.
Ok, Pogacar pour toi. Marc Madiot.
Sans discussion possible, la victoire de Van Der Poel.
On va quand même en discuter. David Douillet.
Je me mets dans la route Christophe, voilà, dans l'aspiration.
Je préférerais moi être dans ta roue, si tu veux, pour éviter de prendre le vent quand même.
Je pense que si tu es sur le plat, ça pourrait aller, mais dans les bosses, ce serait plus compliqué.
Voilà, pour une fois, je vais derrière toi, bien calé, et je vais y rester. Voilà, ouais. Je suis pour l'échec de.
Et pas sur le porte-bagages, sinon t'avances plus.
Oh, ça va. J'y sais, je te mets au défi. On va faire du vélo ensemble. On va prendre le vélo de route et tu vas voir ce que ça va donner.
Deux choses que les auditeurs ne connaissent pas. Déjà la première, et après j'arrive pour terminer ce débat, les copains. Déjà, c'est que David Douillet est un très bon cycliste, et ça je le sais, mon David. Je sais que tu fais souvent des sorties à vélo.
Un très bon cycliste.
Mais amateur, les copains. Oui, ok.
Non. J'y sais à raison. Un très bon cycliste de 130 kilos, et il y en a pas des masses.
Voilà. Le truc que tu ne sais pas de moi, David, c'est que quand j'étais plus jeune avec mon frère, on faisait le Tour de France à vélo. On se faisait des étapes que tous les deux avec mon père qui nous suivait dans la voiture et qui nous ravitaillait avec des bidons. Et donc on a monté plusieurs cols et tout ça. Donc attention, David.
Ce que tu oublies de dire, c'est que tu mettais 6 mois pour le faire. Voilà.
Oui, possible.
Et t'avais enlevé les petits trous, non?
J'ai enlevé les petits trous, évidemment. Mon frère était plutôt le grimpeur et moi j'étais le rouleur parce que j'étais un peu plus costaud à l'époque. Bref.
T'as pourtant un maillot à poids à la maison.
Et offert par Jérôme Pinot, qui ne met. J'ai jamais pu le porter parce que j'ai pas du tout le physique.
Moi aujourd'hui, je rentre pas dedans non plus. Hein.
Alors, le triomphe de Van Der Poel ou le nouvel échec de Pogacar?
Je dirais même le chef-d'œuvre de Van Der Poel.
Le chef-d'œuvre de Van Der Poel. Vous savez quoi? On va commencer avec Pogacar dans quelques instants, mais écoutons tout de même le vainqueur. Honneur au vainqueur, Mathieu Van Der Poel, après la course hier au micro d'Eurosport.
Je savais que c'était le plus fort sur les montées. La Cypressa était impressionnante. Le final du Poggio était fou avec Tadej. Je savais qu'il essayait à chaque fois de me distancer. Je savais qu'il fallait que je fasse un sprint long. Toujours une course spéciale. Mais ces deux coureurs-là sont des coureurs incroyables. C'est incroyable d'être sur le podium avec eux. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Je suis très content.
Il est content, mais c'est pas fin. Il a même dit que c'était pour lui peut-être la plus grande course de sa carrière et que c'était absolument incroyable de se retrouver dans ce final. Que retenez-vous, la victoire de Van Der Poel ou le nouvel échec de Pogacar, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio? Pourquoi Pogacar, Christophe?
Alors, d'abord, juste, effectivement, c'est sans doute le summum de la carrière de Van Der Poel qu'il a réalisé hier. C'est aussi probablement l'un des plus grands Milan San Remo auxquels on a eu le droit d'assister depuis des dizaines d'années. Moi, franchement, on s'est régalé. C'était un régal total de voir ces deux Gala plus Ghana se livrer. On aurait dit un combat de boxe. On aurait dit un combat de boxe. Ils se mettaient des beignets. Pogacar qui accélérait. Van Der Poel qui lâchait rien, qui revenait. Van Der Poel qui a même attaqué au sommet du Poggio. Et franchement, c'était une course extraordinaire. Et il faut vraiment tirer notre chapeau à ces deux garçons qui ont été extraordinaires. Mais effectivement, moi, je voulais quand même revenir sur la défaite de Pogacar parce que je me demande comment ce garçon qui est archi-dominateur sur toutes les courses de l'année, notamment sur les courses par étapes, qui éclate ses adversaires, qui en met partout dans la pente, qui fait des sorties et des de plus de 100 bornes, 50 bornes d'échappée, comment il va faire pour remporter cette course? Parce que c'est la cinquième fois qu'il y participe et c'est le cinquième échec pour Pogacar qui a tout fait hier, qui a tout fait pour essayer de les battre mais qui n'y est pas parvenu. Mais Comment faire face à Van Der Poel, un Van Der Poel dans une telle forme? Je ne sais pas s'il y a une solution parce que Pogacar a toutes les qualités du monde, mais il en faudrait peut-être une nouvelle pour remporter Milan-San Remo, c'est d'avoir une pointe de vitesse sur le plat, et il n'a pas cette pointe de vitesse qu'a Van Der Poel et qu'ont les autres sprinteurs. Et Milan-San Remo, c'est pas une course pour les grimpeurs, c'est une course pour les puncheurs et pour les sprinteurs à l'arrivée. Et donc, s'il n'a pas ces qualités-là, je ne vois pas comment il fera pour battre un Van Der Poel à moins que celui-ci soit absent au départ de la course. Donc franchement, ça doit être un casse-tête dans la tête de Pogacar, casse-tête qu'il peut peut-être résoudre en se disant: ok mon gars, tu m'as battu sur mon terrain, mais moi je vais aller te battre sur ton terrain dans 3 semaines.
Oui, on va y revenir dans quelques instants sur Paris-Roubaix parce qu'il a dit qu'il prendrait la décision après Milan-San Remo. Il a peut-être une solution à Pogacar, hein. Il a déclaré hier: sur le papier, elle n'est pas assez dure, cette course. Évidemment, il dit: je préférais que le Poggio fasse 5 km à 10%. Non, mais c'est comme ça.
On va pas l'inventer, le Poggio.
C'est une course où il est extrêmement difficile pour moi de faire la différence. On ne peut pas faire de magie. Vous voulez réagir, oui, à Marc Madiot?
Moi, je pense que Pogacar a le goût du sang. Il sait que c'est un terrain qui ne lui est pas totalement favorable.
Ouais, non.
Mais l'adrénaline de cette course, l'enjeu, la tension de cette course l'attire comme un aimant. Et pour le moment, il n'a pas encore trouvé la solution. Je pense qu'il a trouvé la solution, mais il manquait 2-3 watts, ouais, par-ci, par-là.
Il manquait
et
un
surtout,
ou deux équipiers peut-être.
Pas que. Je pense que le problème qu'a eu Pogacar hier, c'est que Van Der Poel était dans un jour béni des dieux. Si Van Der Poel est dans la même forme que l'année dernière sur Milan-San Remo ou celle même d'il y a 2 ans quand il gagne, pense qu'il aurait lâché Van Der Poel. Sauf que là, on avait un Van Der Poel sur coussin d'air. Je pense que avec le championnat du monde qu'il avait remporté il y a 2 années passées sur la route, Milan-San Remo hier est peut-être le plus grand chef-d'œuvre de Van Der Poel parce qu'il avait face à lui ce qui se fait de mieux dans les bosses et dans les ascensions et dans la capacité d'accélérer dans les ascensions. Il avait en face de lui ce qui se fait de mieux au monde. Et sans doute sur plusieurs générations. Et ce qu'il a réussi à résoudre comme énigme hier est extraordinaire. Je pense qu'on a vécu un Milan-San Remo historique, une course cycliste d'anthologie, et ça va continuer. Mais là, hier, on avait 2 coureurs au sommet de leur art. S'il y en a un qui est un tout petit peu inférieur sur une des prochaines courses, et c'est l'autre qui gagnera. Donc ce qui montre que pour moi, Pogacar peut gagner à Roubaix si Van Der Poel est un ton en dessous. Et à l'inverse, ce sera également la même chose sur le Tour des Flandres.
Mais est-ce que c'est un échec pour Pogacar?
Oui, bien sûr, il faut que ce soit un échec. Il faut qu'il ait envie de revenir. Et surtout, il faut qu'il vienne à Paris-Roubaix.
Surtout. Et bien après, c'est dans quelques instants. Oui, David.
Moi, ce qui m'interpelle, c'est que on a l'impression que vous parlez de Pogacar comme un espèce de robot, de gars à qui il peut rien arriver, etc. Mais enfin, on sait tous qu'on peut pas être en forme tout le temps à chaque compétition.
Et là,
je pense qu'à travers les propos qu'il a tenus, qu'il était à 95-96.
Ouais.
Et les 2-3%.
Parce que Marc, tu parles de ces 2-3, mais il y a la gamelle au Strade Bianche quand même.
Je pense qu'il lui manque 2-3.
Face à un mec.
2-3%.
Face à un mec qui est, comme tu dis hier, qui.
Ouais, il était au sommet, Van Der Poel. Van Der Poel, il ne peut pas faire plus, c'est mieux.
Van Der Poel hier, il n'y a pas meilleure version. Il n'y a pas meilleure version, pas David. Mieux. C'est pour ça que je te dis, on ne dit pas que c'est un robot, Poggi. Je pense qu'il était pas, il était presque à son top, mais face à un type comme Van Der Poel hier, comme ça, il n'y a rien à faire. C'est normal.
Ouais. Je peux pas faire la différence.
C'est plutôt rassurant qu'un mec comme Van Der Poel gagne cette course, parce qu'il a atout supplémentaire. C'est ce qu'on a dit hier en conclusion. Et Van Der Poel, il a quoi de plus qu'hier? Bah, c'est un coureur classique. Et il a une pointe de vitesse.
Ouais. Un sens de la course peut-être encore plus aiguisé que celui de Pogacar. Pogacar, pour moi, ce qu'il a montré hier.
À Tadej de lâcher l'autre.
Oui, bien sûr. Mais pour moi, Pogacar, il doit continuer dans cette voie et continuer dans ce modèle d'évolution.
De toute façon, Parce que si demain,
la direction de son équipe lui dit, mais t'as perdu Milan-San Remo, tu vas pas aller à Roubaix et tu feras peut-être que le Tour des Flandres, ils vont aller à l'encontre de ce qu'est ce coureur. C'est un coureur magnifique, c'est un coureur qui a un potentiel faramineux, mais il a besoin d'entretenir cette petite adrénaline, il a besoin de ce challenge pour être encore meilleur. Et je pense que pour l'équipe UAE, ce serait une erreur que de brider Pogacar sur les prochaines grandes classiques. Ce serait une erreur.
Tu es le patron du UAE, tu l'emmènes sur Paris-Roubaix.
Bien sûr. Et s'il va à Paris-Roubaix, il écrit l'histoire. Il a gagné 3 fois le Tour de France. Il peut gagner le Tour de France cette année. Mais entre 4 et 5 ou 6 victoires dans le Tour de France et gagner San Remo et Roubaix derrière, c'est autre chose. Il rentre dans une autre galaxie. Pour l'histoire de son sport.
Mais non, David, le risque.
Ce serait une connerie de pas y aller.
Non mais je suis d'accord, mais Roubaix c'est une course à risque.
Pas plus que Milan-San Remo hier, il y a quand même des chutes.
Pas plus que le Tour du Pays Basque. Hein.
Ben oui.
Ils se sont tous satellisés l'année dernière.
Et puis on n'oublie pas non plus que Milan-San Remo, aujourd'hui il n'y a plus qu'un mec à dépasser pour Pogacar pour entrer encore un peu plus dans la légende du vélo, c'est un certain Eddy Merckx. Oui. Et Merckx a gagné 7 fois Milan-San Remo.
Il y a quelque chose qui est à noter aussi, c'est que ce que j'aimerais, là je sais qu'on va parler de la même chose qu'avec Marc, c'est que Tadej Pogacar doit gagner Milan-San Remo, ce Milan-San Remo. Cipressa, Poggio.
Ah bah oui, sinon ça
n'a aucun intérêt. Il faudrait pas que l'organisateur se dise pour que ça divertisse la course.
On n'allume plus la télé.
Mais non.
Si on change le parcours juste pour favoriser un coureur.
C'est arrivé par le passé qu'on change des parcours.
Oui, c'est arrivé une fois ou deux.
Mais là, ça voudrait dire donc trouver un cap.
Il y en a.
Un peu plus sérieux, c'est ça.
Bien sûr. Entre la Cipressa et le Poggio, tu peux remonter une dernière fois 5 km. Avant, entre les deux. Ou avant.
Avec des pentes plus raides. Donc, qui serait plus propice à
une bêtise.
Oh, tu gardes ce parcours-là.
On a bien enlevé le mur de Gramont dans le final du Tour des Flandres.
La tranchée d'Arambert n'a pas toujours été là dans Paris-Roubaix.
Mais il y a un truc, pour le programme de Pogacar, ce qu'il faut dire aussi, c'est que je ne suis pas dans les arcanes, je ne suis pas un proche, mais je sais que c'est lui qui va décider. Ça, c'est sûr.
Heureusement, c'est
Tadej Pogacar qui va décider.
David Douillet, sur cet échec, même si le mot est peut-être un peu dur, mais bon, il vient pour gagner. Quand il finit troisième, on connaît l'appétit de Pogacar. Ça reste pour lui, on l'imagine, en tant que sportif de haut niveau, un échec de Pogacar, David.
Oui, c'est un échec parce qu'il l'a montré dans toute sa course qu'il le voulait. Il n'a pas baissé les bras, il s'est battu jusqu'au bout, etc. etc. Moi, ce qui me plaît, c'est que c'est un pur compétiteur. Voilà, et Marc a raison, si on l'enlève, si on le déconnecte de son ambition et de sa psychologie de pur compétiteur, tu peux dégrader le reste. Donc voilà, et ce qui est bien aussi, c'est d'avoir des gens du niveau de Van Der Poel face à des Pogacar, et ce qui anime le truc, parce que je l'ai dit 10 000 fois, mais à vaincre sans péril, tu triomphes sans gloire. Je veux dire, si des gens comme Van Der Poel n'étaient pas là et d'autres, Pogacar deviendrait une espèce de truc qui tue toutes les courses et qui aseptise le truc. Donc pour moi, ça reste dans l'épopée, dans l'histoire Pogacar. Si on met en comparaison, et vous l'avez fait tout à l'heure avec l'histoire d'un Eddy Merckx, puisque ce sont enfin il y a une légende qui est une légende qui est en train de se créer, se construire et de s'écrire, et ben dans cette histoire là dans l'histoire du cyclisme, ça reste un échec de Pogacar, même si Mathieu Van Der Poel a gagné plus que brillamment cette compétition. C'est un échec de Pogacar sonnant et trébuchant.
C'est un échec, mais moi je me projette déjà sur le Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix. Je me dis, il y aura Van Der Poel, il y aura Pogacar.
À Van Aert.
Il ne manquait que Wout. Et Wout, depuis...
Il est au volcan, là.
Plusieurs semaines, il est focalisé sur le Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix. Et là, on aura le sommet du sommet.
Moi, je trouve qu'il craque.
Le sommet du sommet, ce sera au Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix. Mais je pense au Tour des Flandres, on aura ce qui se fait de mieux et de plus exceptionnel qu'on aura connu dans l'histoire du cyclisme sur une classique.
Si je reviens rapidement.
Vous trouvez pas que vous, Van Aert, il craque trop souvent, mentalement?
Mais Van Aert, il ne craque pas!
Van Aert, c'est le coureur. C'est le coureur préféré de Marc, surtout qu'il passe
à un monstre de travail. Il a été en
dernier tour, il a craqué, arrête, Marc.
Depuis qu'il est minime, il est en opposition avec Van Der Poel. Il ne l'a jamais. Mais non, il va pas craquer.
C'est pas vrai.
Moi, je crois en Wout van Aert. J'aime son approche, j'aime son...
Tu peux recruter les deux au même prix. Tu prends Van Aert ou tu prends Van Der Poel?
Le plus choix le plus difficile de ma vie.
Je sais, j'imagine.
Je vais aller jusqu'au bout.
Je connais un peu les deux.
C'est des gens qui ont le respect de l'histoire de leur sport. Quand tu les croises dans un hôtel, quand tu les croises en course, quand ils remontent de faire pipi dans la file des voitures, c'est deux gentlemen. C'est deux gentlemen parce qu'ils font un signe de la main, ils font un petit bonjour.
Enfin, tu t'appelles Marc Madiot.
Oui, mais
je le vois même pas sur.
Moi, je suis pas sûr, mais c'est normal.
Je trouve que Van Der Poel a plus de mental.
Van Der Poel, parce que Van Der Poel, je le connais depuis longtemps par le grand-père.
Eh oui, Raymond Poulidor.
Mais par toute l'histoire qu'il y a derrière ces deux champions, j'ai envie de dire, je prendrais Wout van Aert. Parce qu'il est capable d'aller chercher quelque chose sur le Tour de France. Van Der Poel, c'est fantastique sur les courses d'une journée. Il, c'est le meilleur.
Il a quand même gagné.
Mais Wout, il est capable d'aller gagner au Ventoux.
Ah oui.
Il est capable de faire des trucs que ne fait plus Van Der Poel. Et moi, j'ai une petite sensibilité supérieure, c'est tout petit, c'est infinitésimal.
Un choix difficile, mais on a bien compris. Il y a Kevin qui nous appelle au 32-16. Salut Kevin.
Salut JC, salut les
gars. Et toi Kevin, tu préfères faire un resto avec Marc Madiot ou avec Jérôme Pinot?
Les deux.
Le choix avec les deux. Okay. Comme ça, je pourrais discuter avec Jérôme puis m'engueuler avec Marc.
ou l'inverse, c'est possible aussi.
Ou l'inverse.
Bon, tu retiens quoi? Van Der Poel ou l'échec de Pogacar?
Moi, je vais retenir la magnifique montée de Romain Grégoire et ça va me permettre de dire un mot sympa pour Marc. Parce que Romain Grégoire hier finit 30e, mais en faisant une magnifique montée du Cyprès, si je me trompe pas dans le nom. Il est allé au culot à essayer de suivre les gros, finit 30e, et c'est anecdotique, et finalement il a engrangé d'expérience, et c'est dans la lignée des coureurs de marque qui sont sans complexe, et je pense que leur patron y est pour beaucoup. Donc j'ai parfois été véhément avec toi Marc sur cette émission, mais chapeau encore à toi pour ce que tu apportes à tes coureurs. Maintenant, si je reviens sur le duel Van Der Poel et Pogacar, je vais retenir l'effet de Pogacar dans le sens où elle est honorable, parce qu'on sait que finalement Milan-San Remo, il en rêve, c'est son problème, et finalement le parcours n'est pas idéal pour lui, ça manque un peu d'altitude ou de pourcentage, et on sait que c'est clairement difficile pour lui. Et moi, j'aimerais bien, à contrario, vous parliez de que Pogacar aille sur le terrain de Van Der Poel avec Paris-Roubaix. Mais moi, j'aimerais bien qu'on ait Van Der Poel aussi sur le terrain de Pogacar. Alors, on sait que les grands tours, clairement, c'est pas son truc et il est pas forcément équipé physiologiquement pour, même si je pense qu'avec le moteur qu'il a, avec une préparation adaptée, je pense qu'il serait capable.
Non, il s'emmerde.
Non, c'est pas possible. Bon. Puis c'est pas dans sa mentalité.
Physiologiquement,
ça me choque. Alors, tu sais comment je suis. Je prends souvent la parole sur ce sujet-là et mettons les pieds dedans. Ça me choquerait de voir Mathieu Van Der Poel gagner un Tour de Lombardie ou un Liège-Bastogne-Liège. Là, ce serait physiologiquement dérangeant, voire très dérangeant.
Okay. Oui. Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, il y a quand même une part de moi qui dit, alors il faudrait qu'il change sa préparation, peut-être qu'il renonce un peu au cyclocross. Et clairement,
c'est pas dans son ADN. Lui, il kiffe le cyclocross. Hein.
C'est pas dans son
les
ADN.
Les pavés, les frites, la bière, c'est ça. Hein.
Merci Kevin.
Les courses de 3 semaines, ça le gonfle de toute façon. Lui,
il s'ennuie.
L'homme d'une journée, d'une course d'un jour.
Hein. Même un jour, il s'emmerde presque. Hein, quand tu vois son comportement à Tirreno-Adriatico, il dit c'est pas le même coureur, quoi.
Okay. On dit s'embêter, en fait, quand on a la radio. Mais après, on peut parfois déborder un peu. Oui, s'ennuyer. Merci beaucoup, Maître Capello. merci Kevin d'avoir composé le 32-16.